I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Raphaël a grandi dans une famille nombreuse au sein d'une grande fratrie atypique composée d'une sœur biologique et de trois frères et sœurs adoptés à l'étranger. Elle vivra l'arrivée de sa dernière petite sœur en temps réel car c'est en famille qu'ils vont tous la chercher au Vietnam. Raphaël pouponne très jeune et il est clair pour elle qu'elle deviendra mère à son tour plus tard. Lorsqu'elle rencontre son conjoint, il est déjà papa, alors Raphaël va devoir d'abord passer par la case belle-mère avant de donner naissance à son tour à sa fille Charlie puis à son fils Milo. Pendant ses deux grossesses, elle déclenche une cholestase, ce qui lui permet d'éviter l'accouchement par voie basse dont elle a si peur. Avec Raphaël, on parle de vivre sa grossesse en même temps que sa sœur, de faire manger des légumes à ses enfants ou pas, de la vie de couple qui vacille à l'arrivée du deuxième et d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Bonne écoute!
Hello Raphaël!
Bonjour!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Merci de m'accueillir chez toi.
Avec grand plaisir! Alors toi, tu es la maman de deux enfants.
Charlie et Milo.
Ouais, ils ont quel âge?
8 ans pour Charlie et 5 ans Milo.
Ok. Et alors toi, avant de devenir mère plus jeune, comment tu envisageais ta future vie de famille? Est-ce que la maternité, enfin tu te voyais devenir mère un jour ou c'était pas trop un sujet qui t'intéressait?
Oui, ça m'a intéressée très jeune. Moi je suis issue d'une famille nombreuse, donc j'ai 4 frères et sœurs.
Ok.
Forcément, avec ma petite sœur dont j'étais la plus proche, on s'est toujours projeté ouais, d'être maman assez jeune. Donc oui, c'était voulu depuis longtemps.
Ouais, c'était une évidence que plus tard... Ok.
Ouais.
Et donc toi, tu deviens belle-mère avant de...
Tout à fait.
De devenir mère.
Je deviens belle-mère de Brune, qui aujourd'hui a 18 ans. Je l'ai rencontrée à 6 ans.
Ouais.
Je l'ai rencontrée au bout d'un an de relation avec mon conjoint, avec Alexis. Et ouais, ça c'était un petit peu délicat au début parce que j'avais ce truc de me dire qu'il avait déjà un enfant avec une femme, donc c'est vrai que ça me bloquait un petit peu.
Ouais.
Mais d'un côté, je le voyais excellent papa, enfin un papa incroyable, donc je me disais pas mal quand même d'avoir un homme qui sait déjà s'y faire avec un enfant. Donc c'était chouette, mais au début c'était compliqué quand même. Il a fallu que j'ai un enfant avec Alexis pour que ça se détende au niveau de ma belle-fille.
Ah ouais?
Ouais, vraiment.
D'accord.
Pourtant, elle était adorable. Aucune animosité envers moi, toujours hyper mignonne, très sainte. Enfin, franchement, c'était une petite fille adorable. Mais c'était plus ma position vis-à-vis du fait qu'il ait déjà eu un enfant avec une femme qui me bloquait un peu.
Ouais.
Dès que je suis devenue maman, ça a été nickel.
Ouais.
Ouais.
Et comment t'as trouvé ta place, toi, en tant que belle-mère?
Facilement, parce qu'elle était tellement mignonne et facile qu'elle a tout de suite eu un coup de cœur sur moi. Elle me menait la vie très, 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 très facilement, très simplement. Donc non, ça s'est fait de façon assez cool. Mais c'était encore plus simple quand j'ai eu Charlie et qu'elle est devenue aussi sœur avec Charlie, que je les ai vues toutes les deux. Ça m'a touchée et ça a facilité quand même pas mal de choses.
Ouais. Et c'était quoi, une garde alternée
Oui. Au début, quand on l'avait, on l'avait 3 jours par semaine. Puis après, sa maman est partie à Fontainebleau. Là, c'était plus compliqué, on l'avait un week-end sur deux. Et après, Brune, on l'avait de moins en moins, puisque sa maman voyageait beaucoup, elle avait fait un tour du monde. Mmh. Après, ils sont partis dans le sud, Aix-en-Provence. Donc petit à petit, on la voyait quand même de moins en moins.
Ouais.
Alors que moi, finalement, je m'attachais de plus en plus à elle.
Ouais.
Donc la distance a été de plus en plus difficile pour nous.
Et toi, quand tu rencontres cet homme, est-ce que tu as réfléchi avant de te mettre en couple en te disant « mais attends, il y a un enfant
?» Alors, il y avait un enfant, puis en plus, il était DJ. Donc, rien que quand j'ai dit à ma maman, j'ai eu un coup de cœur sur un homme. « Ah oui, raconte-moi. » Je dis « il est DJ, il a un enfant, il est marié. » Je dis « non, heureusement, il n'était pas marié. » Mais c'est vrai que c'était... Oui, c'était... Mais bon, tout de suite, le fait de l'avoir vu papa assez rapidement, je me suis dit « oui, c'est lui, quoi. »
Ouais.
C'est lui, un côté très rassurant, ouais, de me projeter avec lui pour avoir des enfants.
Et alors, à quel moment le sujet de la maternité est arrivé dans ta vie ?
Dans notre couple, du
dans
coup.
Dans votre couple, la parentalité ?
Assez rapidement, hein, puisque je crois qu'au bout d'un an et demi, je lui parlais déjà d'enfant.
Ok.
Et on a eu Charlie, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble.
Ok.
Ouais.
Et lui a tout de suite été OK aussi.
Ouais, il a tout de suite été OK. Il savait que même dès le début, je disais, ah, te voir papa comme ça, ça me donne envie. Donc, ouais. Il savait déjà que depuis le début, c'était quelque chose que j'avais envie.
Et alors, t'es tombée enceinte facilement quand vous avez pris la décision ?
Plutôt facilement. J'ai arrêté la pilule, je suis tombée enceinte juste après.
OK.
Ouais, une dizaine de jours après.
Super nouvelle.
Ouais, super nouvelle. On était ravis tous les deux.
Ouais. Tu t'attendais à être enceinte aussi vite ?
Non. On ne s'attend jamais vraiment à être enceinte aussi vite, surtout que je prenais la pilule depuis un petit moment. Mais oui, très belle surprise.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Bien, j'ai eu un décollement dès le début. Donc, j'ai été alitée les 3 premiers mois.
Ah oui ?
Et oui, j'avais un obstétricien qui était très très prévoyant, peut-être un peu trop, mais c'est pas plus mal quand on est enceinte. Donc il m'a alitée les 3 premiers mois et après on a découvert la cholestase à 6 ou 7 mois, je crois.
Ah, tu t'es dit, oulala, ça part mal ou...
Assez stressée. Après, comme je t'ai dit, j'avais un obstétricien qui était tellement prévoyant que j'étais quand même très rassurée d'être entre ses mains. À partir du moment où il m'alitait, je me disais qu'il ne pouvait rien m'arriver de toute façon tant que j'étais allongée. Et puis, comment on appelle ça, le décollement, c'est assez vite résorbé.
Okay.
Donc, ça a été. Non, j'étais pas stressée. J'étais tellement heureuse d'être enceinte. Mais c'est vrai que voilà, je passais mes journées... même toute ma grossesse, je crois que je n'ai pas beaucoup bougé. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris 20 kilos. 20 kilos et je passais mes journées à mettre de la crème sur le ventre pour ne pas avoir de vergeture. Ça, c'était une grande angoisse. Ouais.
J'en ai pas eu. T'en as pas eu ?
Non. Les journées à se mettre de la crème, ça a bien fonctionné.
Ouais. T'occupais comment d'ailleurs tes journées quand t'étais habitée ?
À l'époque, je regardais la télé.
Ouais.
Ouais, je regardais pas mal la télé, je bouquinais pas mal. Mais c'est vrai que j'avais pas le droit de me faire à manger, rien. Les 4 premiers mois, c'était. Mon homme était quand même beaucoup à ma disposition. Ma mère venait tous les jours aussi m'amener des petits plats cuisinés et tout. Donc, non, j'étais très bien entourée. Mmh. C'était chouette. Et donc, ouais, je regardais la télé, chose que je ne fais absolument plus aujourd'hui. J'ai plus le temps, mais à l'époque, j'avais du temps.
Ouais. On t'annonce après la cholestase.
Ouais, ouais. Là, c'est stressant parce qu'on se dit que c'est le bébé qui a des chances de souffrir. Après, j'étais très très bien. Très très bien entourée, je faisais des prises de sang toutes les 2 semaines pour contrôler, donc ça allait. Mais oui, la cholestase, c'est sûr que ça m'a stressée. Ouais. Ça m'a stressée déjà d'avoir une césarienne programmée, même si je la voulais, on ne sait jamais à quoi s'attendre pour une première césarienne, donc oui, j'étais quand même assez stressée.
Ouais.
Et moi, il faut savoir que c'est ma hantise d'accoucher par voie basse.
Ah ouais ?
Ouais, ça a toujours été une hantise, vraiment, toujours très très peur de me dire « mais ça sort par là, c'est fou ». Et il paraît que toute petite, je disais à mon père « mais non, je ne veux pas faire ça, c'est pas possible ».
Trouvez-moi une solution.
Ouais, trouvez-moi une solution. Donc j'avais dans l'idée de demander à mon obstétricien si on pouvait faire une césarienne de confort.
Ok.
Et en fait, ma fille s'est très vite retrouvée en siège, donc comme si elle avait un petit peu... je sais pas, peut-être compris que je voulais que ça se passe comme ça.
Ouais.
Et donc, quand on a découvert la cholestase, à ce moment-là, on a prévu une césarienne.
D'accord.
Mais on l'a prévu 2 semaines avant le terme. Sauf que un mois avant le terme, donc à 8 mois de grossesse, du coup, Alexis était parti à une date. Il était parti jouer à Londres, je crois. Et j'ai eu un petit peu de sang en allant aux toilettes. Donc, j'ai appelé ma sage-femme qui m'a dit « Oui, là, 8 mois de grossesse avec un petit peu de sang et ta cholestase va faire... un monitoring. » J'ai dit « Oui, mais je suis toute seule, mon mari n'est pas là. » Elle m'a dit « Attends-le, il est arrivé. » Donc, on part, je commence à avoir des contractions. Et là, il me dit « Je pense que tu vas accoucher. » Je dis « Mais non, j'ai rien pris. J'ai pris qu'une paire de chaussettes, mon chargeur. Enfin, je reviens à la maison de toute façon. » Il me dit « Ah, je le sens pas. Je pense que ça va être ce soir. » Et arrivé à la maternité, en effet, j'étais dilatée à 2. J'avais, et en fait, la petite était en souffrance fœtale. Donc, mon gynéco est arrivé en 20 minutes après, et la petite est née une demi-heure après, même pas en urgence. Et en fait, elle avait avalé du liquide amniotique, qui en fait, elle avait fait des selles dans le liquide amniotique juste avant qu'elle ait en souffrance fœtale. Et quand il y a des selles, on appelle ça le méconium qui vient dans le liquide amniotique, ça le rend toxique, et on avait avalé un petit peu.
Ah oui, donc là c'était très urgent.
Donc c'était urgent. D'ailleurs, je l'ai pas entendu quand elle a, je l'ai pas entendu pleurer quand j'ai accouché. Ils l'ont tout de suite emmenée pour la désencombrer un petit peu, et voilà. C'était assez. Mais bon, c'est pas plus mal parce que j'étais tellement stressée de ce premier accouchement que le fait que ce soit passé comme ça dans l'urgence, finalement, j'ai rien eu le temps de comprendre.
Ouais.
Et ça s'est quand même très bien passé.
Et du coup, t'étais toute seule pendant ton accouchement ?
Non, il était là, je l'ai attendu, et on est arrivés tous les deux à la maternité.
Ok. Donc il a pu faire les premiers soins.
Ouais, bien sûr, il s'est super bien occupé de sa fille.
Ouais.
C'était chouette. Ah ouais, heureusement qu'il était là parce que.
Ouais. Et tu savais que c'était une fille ?
Oui, je le savais. J'étais heureuse, je voulais une fille pour la mienne.
Ouais. Donc après cette rencontre un peu sportive,
ouais.
Comment ça se passe la rencontre après la césarienne?
Pas évident la première césarienne quand même.
Ouais.
J'en ai des souvenirs où c'était assez dur. J'ai accouché en privé. On m'avait donné pas mal de morphine, donc j'étais quand même pas mal shootée. C'était assez éprouvant, ouais, j'en garde pas des. Mais bon, ça a duré 3 jours où c'était très compliqué, et après ça a été mieux. Et puis c'était merveilleux,
ouais.
C'était merveilleux.
Tu voulais allaiter ou pas ?
Oui. Oui, ça c'était voulu. J'ai allaité ma fille 4 mois exclusivement. Ce qui a été très dur après, ça a été de vouloir la passer au biberon, forcément. Ça a été très difficile.
Et la mise au sein, ça a été simple, ouais, dès le
très
début.
Très simple, dès le début. Il n'y a eu aucun problème avec l'allaitement. Ça s'est très très bien passé pendant 4 mois.
Trop chouette.
Et puis après, voilà, on a fait le sevrage qui a été dur. Pendant 2 semaines, ça a été très dur. Elle a fini par accepter et voilà.
Ouais. Et donc là, ça y est, t'es maman,
ouais.
Belle maman. Donc tu disais au début que ça avait changé ton regard aussi sur ta belle-fille.
Tout à fait.
Enfin, sur votre relation en tout cas, enfin, ta relation à elle. Mmh. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Charlie?
C'était super mignon, surtout que Brune, de son côté, avait eu un frère et une sœur aussi.
Ok.
Voilà, donc c'est l'aînée d'une grande fratrie recomposée. C'est une super grande sœur, même encore aujourd'hui. Elle a toujours été incroyable avec ses petits frères et ses petites sœurs.
Ouais.
Ouais, très. Une grande sœur protectrice, quoi.
Du
moins quand on la voyait, parce que forcément, c'était pas souvent.
Ouais. Maintenant, elle fait le lien entre les deux familles.
Ouais.
C'est un peu le pont, quoi.
C'est un peu le pont, exactement. Mais du coup, pas facile pour elle, quand même.
Ouais. Et t'as pu discuter, toi, avec elle, justement, de ça, du fait que t'avais compris pas mal de choses en devenant mère
Pas sûr qu'on ait. Non, on n'a pas encore discuté de ça. C'est vrai que maintenant que Brune est dans l'adolescence, c'est compliqué d'aborder tout ça. Je pense qu'on en parlera quand elle sera un petit peu plus adulte, si je puis dire. Mais voilà, là, ce qui compte pour elle, c'est vraiment les amis.
Oui.
Les réseaux, les sorties.
Ouais, normal.
Ouais. Mais oui, évidemment, je pense qu'un jour, on aura cette discussion-là, toutes les deux, bien sûr.
Et alors, c'était quoi ton lien avec Charlie? Vous sembliez très fusionnel.
Ah ouais, comme je t'ai dit, ouais, je voulais une fille. Donc, j'étais très, très heureuse de l'avoir. Je l'ai gardée 2 ans avec moi.
Ok.
Avant de la faire garder par une... on appelle ça une assistante maternelle, ouais. Juste avant qu'elle aille à l'école quand même, parce que je trouvais que le passage de moi à l'école était peut-être un peu compliqué, donc j'ai préféré la mettre un petit peu en collectivité. Mais oui, 24 mois à mes côtés sans la lâcher, quoi.
Ouais. T'avais arrêté de bosser, toi?
J'étais au chômage à ce moment-là, je crois que j'étais au chômage à ce moment-là, ouais, tout à fait, ouais. Ou je sais plus. Ouais, ben non, mais je travaillais pas à ce moment-là.
Ouais.
Non, j'étais avec elle à
100%. Ouais. Comment ça se passait au quotidien, vu que tu bossais pas parfois on se dit, oh là là, être mère au foyer, c'est compliqué.
Ouais, je profitais d'elle, on se baladait beaucoup, j'allais beaucoup voir ma maman.
Ouais, qui
vit à côté, voilà, on n'était pas très loin. Et après, c'était des journées quand même assez chargées, hein. Mais je bougeais beaucoup avec elle, j'ai beaucoup me promené avec elle.
Ouais, le temps de t'ennuyer.
Non, pas trop le temps de s'ennuyer, il fallait l'occuper aussi, ça grandit vite, ça bouge vite.
Et t'avais du temps pour toi aussi ?
je prenais un peu de temps pour moi. Après, j'avais, à ce moment-là, j'avais Alexis qui travaillait beaucoup. Il était la semaine en studio, les week-ends, il partait à des dates un petit peu partout. Donc, j'étais quand même beaucoup avec elle. Et dès qu'il rentrait, j'essayais de lui donner quand même un petit peu pour... oui, parce que forcément, c'est assez prenant d'être avec un enfant non-stop.
Ouais.
Donc, c'est dans ces moments-là, quand je déléguais un petit peu, j'arrivais à avoir un peu de temps pour moi.
Tu t'es renseignée un petit peu, informée sur la maternité pendant cette première grossesse ?
Un petit peu.
Tu allais un peu freestyle ?
Ouais, j'y allais un peu freestyle. Je suis pas du genre à trop me renseigner. Mmh. Je suis plutôt, je préfère plutôt vivre la chose, ouais.
Ouais, t'informer après si jamais.
Exactement. Par contre, pour la cholestase, quand je l'ai su, oui, je me suis informée sur la cholestase, ce qui m'a d'ailleurs pas mal stressée à l'époque. Mais voilà, une fois de plus, j'avais un super médecin, donc je savais que ça allait le faire.
Et t'avais des copines enceintes aussi ou...
Ma sœur est tombée enceinte une semaine après moi, donc on a vécu une maternité ensemble.
Ah, excellent.
Enfin, une grossesse et une maternité ensemble, ouais, ça c'était hyper chouette. Alors, je l'ai un peu mal pris au début. Ça a été d'ailleurs un peu compliqué parce que... Alors, on est très proches. Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur donc, qui ont été adoptés en Corée.
OK.
Voilà. Et qui ont 9 ans d'écart avec moi et ma sœur. Nous, on a 2 ans d'écart. Mais voilà, donc mes parents ont élevé d'abord mon grand frère et ma grande sœur. 9 ans se sont passés. Nous, on est arrivés en binôme juste après. On a été élevés un petit peu ensemble. Et puis après, il y a eu ma petite sœur qui a été adoptée au Vietnam. Pareil... 10 ans après nous.
D'accord, bah c'est ta maman aussi. Donc j'interview.
Une femme incroyable. Ma maman ne pouvait pas. Avait des problèmes. Alors je vais pas raconter n'importe quoi, mais je pense qu'elle avait des problèmes pour avoir des enfants. Elle pouvait pas tomber enceinte. Je sais pas si elle était fertile, mais en tout cas voilà, il y avait des soucis. Donc elle a décidé d'adopter ma grande sœur en Corée. À l'époque, elle pouvait pas y aller. Donc on lui a envoyé des photos et on lui a ramené ma grande sœur à Charles de Gaulle. Elle avait 3 mois. Donc voilà, l'aventure a commencé pour elle. Je crois qu'elle avait 30 ans à l'époque. Ensuite, elle a adopté mon frère, pareil, dans le même orphelinat en Corée, 2 ans après. Et donc là, le fait de materner, je pense, a débloqué un petit peu tout ça. Mmh. Et elle m'a eu 9 ans après, à sa grande surprise, donc un peu le bébé miracle. Elle avait 38 ans, je crois, 39 ans. Et son médecin lui a dit, si vous voulez un deuxième, naturellement, il faut se dépêcher, puisque, voilà, après, ce sera encore plus compliqué. Donc, 2 ans après, elle a eu ma petite sœur. Et on lui a ligaturé les trompes à ce moment-là, puisque ça aurait été trop dangereux.
Ah oui.
Oui, parce que je crois que pour ma sœur, elle a fait... tu sais, quand tu fais une hémorragie un petit peu interne.
Ah, hémorragie de la délivrance.
Préclampsie, je crois.
Ouais, ok.
Donc, trop dangereux. Ils l'ont endormi carrément pendant la césarienne pour ma sœur. Donc voilà, on lui a ligaturé les trompes. Et donc, voilà, c'est parti, 4 enfants. Donc, génial. Et puis, c'est vrai qu'à 50 ans, quand elle a eu 50 ans, elle, on lui a dit, oh, maman, on aimerait bien avoir encore un petit frère ou une petite
sœur. Ah oui.
Okay. Apparemment, là, d'après elle, la demande venait de nous. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas, mais bon, elle avait quand même 50 ans. Donc, adopter un dernier enfant à 50 ans. Donc, on est partis tous au Vietnam. Là, ça a vraiment été une aventure familiale. C'était incroyable. On est partis plusieurs fois au Vietnam, tous ensemble. Et dernier voyage, on l'a ramené en France. Elle avait, je crois, 3 mois, Loulan. Et ouais, ça a clôturé cette belle famille atypique.
Ah oui. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là?
Ah, tu me poses des codes, là. Parce que les calculs, je devais avoir... Ma soeur a 25 ans, j'en ai dans, j'avais 11 ans.
Ok.
11 ans, ouais.
Ah ouais, sacrée aventure. Et en plus, j'imagine que t'as pu pouponner...
Ouais, on a bien pouponné avec ma soeur, ouais. Ah ouais, j'en garde des super souvenirs. Ouais, c'est notre... Bah déjà, moi, ma petite soeur... qui a 2 ans de moins que moi, personne ne pouvait la toucher, personne ne pouvait l'habiller. C'était, je m'en occupais énormément.
Ouais.
Ouais, énormément.
T'avais quand même ce rapport à la maternité très tôt, quoi.
Donc c'est vrai qu'avec ma sœur, on a toujours été très très fusionnés avec ma petite sœur, ma sœur biologique. Même si on n'en fait aucune différence dans la famille entre les adoptés et les biologiques. Enfin, franchement, on n'a jamais fait aucune différence. Il y a autant d'amour pour les uns que pour les autres. Et donc je suis enceinte, pour moi c'est mon moment.
Ouais.
Ma sœur a toujours fait un petit peu tout comme moi. J'ai toujours été un peu son modèle. Donc, et là, quand j'apprends qu'elle est enceinte, tout à l'heure après, je me dis, mais c'est pas possible.
Elle dit, mais tu
crois que j'ai fait exprès. Enfin, la nature... Donc, ça a duré 2 jours. J'ai fait une petite crise de 2 jours. C'est pas possible, tu me voles mon moment. Enfin, pour une fois, c'était mon moment. Et puis, 2 jours après, je me dis, mais en fait, quel moment elle aurait pu faire exprès de tomber enceinte. En fait, on ne fait pas exprès de tomber enceinte, ça se saurait sinon. Donc, très heureuse de vivre ça avec elle. Elle a accouché une semaine après moi. Et c'était incroyable. Ouais. Donc, nos enfants sont très, très proches aujourd'hui.
Trop bien. Ça me fait penser à Rachel et Monica dans Friends, parce qu'elle lui dit qu'elle lui vole tous ses moments.
C'était un peu ça. Quand on était plus jeunes aujourd'hui, il y a vraiment plus de temps, on est tous les deux mamans. Et voilà, mais c'est vrai que quand on était jeunes, j'étais un peu son modèle. Elle avait tendance à faire un peu tout comme moi.
Donc ouais, la grande sœur.
Voilà, c'était sympa, mais il y avait des moments que j'aurais préféré un peu plus tranquille.
Oui. Quelques années passent et donc vous décidez de faire un deuxième enfant.
Un deuxième enfant, ouais. Alors pour le coup, là, il n'a pas dit oui tout de suite parce qu'il en avait déjà deux, lui.
Ouais.
Donc c'est là où c'est un peu délicat quand on est avec un homme qui a déjà un enfant, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde.
Il y en a un qui a de l'avance, quoi.
Exactement. Ouais. Donc oui, et puis c'était le dernier descendant de sa famille, donc il m'a dit il faut un garçon. Il m'a mis la pression sur un peu sur le garçon. Il m'a dit si on fait un troisième enfant, il faut que ce soit un garçon. Donc voilà, un petit peu la pression. Et on a eu de la chance, c'était un garçon.
Ouais, ça arrivait vite aussi.
Et oui, alors moins vite que pour Charlie, j'ai arrêté la pilule, je crois que ça arrivait 4-5 mois après l'arrêt de la pilule, que j'avais repris entre temps quand même. Mais voilà, on n'a pas galéré, quoi.
Et alors cette deuxième grossesse, est-ce qu'elle a été un peu plus simple ou...
Plus compliquée, parce que la cholestase est revenue, cette fois-ci beaucoup plus tôt, je crois, vers 4 mois, elle est revenue. Donc là, pour le coup, beaucoup de démangeaisons sur tout le corps. Et c'était très prenant, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais à bout, donc mon gynéco m'a mis sous traitement. Parfait, nickel, je ressentais plus rien au niveau des démangeaisons, donc c'était top. En revanche, là, on avait prévu une césarienne un mois avant.
Okay.
Parce que la cholestase, ça peut, c'est aucun danger pour la maman, mais ça met vraiment le bébé en danger à partir de 8 mois de grossesse. Donc là, on n'a pas pris de risque comme avec Charlie. On a fait un mois avant. Donc là, pour le coup, c'était vraiment prévu un jour à l'heure.
Ouais.
Très, très, très stressant pour moi la veille de savoir que le lendemain, j'allais.
Ouais.
Puis on sait à quoi s'attendre pour un deuxième. Donc beaucoup plus stressé. Et finalement, ça s'est très bien passé. Je l'ai entendu pleurer. J'avais pas entendu pleurer ma fille, donc ça m'avait un peu traumatisée, je me souviens à l'époque. Donc là, non, il a pleuré et tout s'est bien passé. Il a quand même fait 2 jours de néonat, je crois, parce qu'il était assez encombré, il avait pas mal de glaire. Mais voilà, 2 jours de néonat et ça s'est très bien passé.
Ouais.
Allaitement aussi, 8 mois pour le coup. J'avais tellement galéré avec Charlie au niveau du sevrage que je me suis dit, lui, je vais lui mettre un biberon à un mois direct et je vais faire les deux. Et ce qui a été beaucoup
plus facile. Ah, t'as fait un allaitement mixte ?
Ouais, mixte. Okay. Donc, dès un mois, j'ai intégré le biberon et on a fait ça pendant 8 mois. Et c'est vrai que ça s'est passé, de sevrage, c'est très bien passé. Ça a été beaucoup plus fluide qu'un arrêt direct au biberon.
Et la rencontre entre Charlie et son petit frère ?
Ouais, c'était incroyable.
Ouais.
C'était incroyable.
Elle l'attendait.
Ah ouais. Ouais, mais elle était très heureuse de devenir grande sœur. Et non, c'était des très très beaux moments. Puis comme je t'avais dit tout à l'heure, on était chez ma maman à ce moment-là. On est resté un mois chez ma maman, donc dans un cocon, toute choyée, avec mes deux enfants. C'était le rêve.
Ouais, parce que t'expliquais que, enfin, off tout à l'heure, que vous habitiez à ce moment-là dans le quartier où il y avait eu une explosion dans une boulangerie.
Explosion. Voilà, où nos fenêtres ont été soufflées, donc tout le système de fermeture avait sauté. Donc au mois de janvier, il faisait très froid dans l'appartement. Impossible de rentrer avec un nouveau-né. Mes parents, habitant à côté du lieu où j'avais accouché, nous avaient proposé de loger chez eux. Et évidemment, on a accepté, ce qui fait que j'ai vécu un début d'aventure avec mes deux enfants vraiment incroyable auprès de ma maman et de mon papa. C'était génial.
Parfaitement chouchouté.
Ouais, vraiment, des super souvenirs.
Est-ce que tu avais de l'appréhension quand vous avez dû retourner dans cet appart après l'explosion ? C'était quoi, au bout d'un mois ?
Un mois et demi, mes parents nous ont quand même dit ce serait bien que vous rentriez.
Ouais.
Il fallait surtout attendre les fenêtres, c'est très très long, puisque à ce moment-là, il y a eu dans le quartier beaucoup de personnes qui ont eu des soucis à ce niveau-là. Donc oui, il a fallu quand même attendre qu'on ait les fenêtres. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, un mois et demi, pardon, oui, on est rentré. J'étais contente de retrouver mon cocon quand même avec mes deux enfants. J'avais tout préparé surtout pour la naissance de Milo, donc tout l'attendait à la maison. Donc très contente de pouvoir le voir dans tout ce que j'avais préparé. Et oui, de se ressentir chez soi. Moi, je suis très casanière, je me sentais très bien dans cet appartement à l'époque. Donc oui, j'étais très contente quand même de retrouver une vraie vie, parce que la vie avec sa maman, c'est sympa.
Ouais, c'est une parenthèse.
Voilà, c'était une parenthèse, une super parenthèse, mais ouais, t'es très content de retrouver notre cocon. Charlie était content de retrouver aussi sa chambre. Bah. Puis bon, l'école, hein, puisqu'à ce moment-là, elle avait, mon mari l'amenait à l'école, mais c'était hyper loin, donc c'était pas pratique. Donc oui, on a retrouvé notre petit confort de vie quand même à la maison.
Et il n'y avait pas une ambiance particulière dans le quartier?
Ah si, dans le quartier, c'était particulier, ouais. C'était très particulier. Mais c'est vrai que moi, ayant un nouveau-né à la maison, en plein hiver, je ne sortais pas beaucoup quand même. J'ai pas mal coucouné, ouais.
Et alors, comment se passe votre petite vie de famille, tous les quatre, avec l'arrivée de Milo?
Eh bah, bien, très bien. Comme je t'ai dit, on était choyés, donc c'était super. Fatiguée quand même d'être passée de 1 à 2. Et puis c'est un peu là que mon compte aussi a commencé à prendre sur Insta. Je faisais des photos évidemment de mes deux enfants. Je pense que ça a intéressé, je pense, de me voir devenir maman d'un deuxième enfant. Ils avaient à peine 3 ans d'écart. Donc il y avait un côté quand même assez sport.
Et tu racontais quoi du coup sur tes réseaux?
Je partageais. Alors je montrais pas mon fils. Je crois. Bon, c'est 6 mois. J'ai pas vraiment montré son visage. Donc c'était une petite oreille, un petit pied par-ci par-là. Je partageais mes ressentis, ma fatigue, mon allaitement. Et puis de là, j'ai commencé à partager aussi des petits créateurs qui voulaient m'envoyer des petites choses pour les enfants.
Avec tout ce qu'on entend là d'ailleurs sur le fait d'exposer ou pas ses enfants, t'en penses quoi toi maintenant avec un peu de recul?
À l'époque justement, j'avais pas beaucoup d'abonnés du tout, peu, donc je pensais pas forcément à ça. J'avais surtout envie de partager ma maternité avant tout. Aujourd'hui je vois les choses différemment. C'était il y a déjà 5 ans, je trouve que le monde en 5 ans il est parti un petit peu en cacahuète, si je puis dire. Et puis mon nombre d'abonnés qui a explosé, donc forcément maintenant, oui, j'ai un peu plus peur pour eux aussi. Ça m'empêche pas de les exposer, mais en tout cas plus au quotidien.
Est-ce que Charlie, elle s'est posé des questions justement par rapport aux réseaux sociaux ou pas du tout?
Oui, forcément, de voir sa maman beaucoup sur le téléphone, à travailler dessus. Oui, et puis elle a eu des propositions, elle avait 3 ans pour faire des petites campagnes avec moi. Donc oui, mais je sentais que ça lui plaisait de toute façon. Elle est toujours en demande d'être à côté de moi, de voir ce que je faisais. Elle était très curieuse de tout ça. Donc je sentais qu'elle était à l'aise, et puis je le voyais dans les premiers contrats qu'elle avait avec moi. Ça se passait toujours très très bien. Elle était toujours très contente. Mais après, elle ne me posait pas de questions particulières. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vois que ça a un impact, évidemment. Mais pas plus que finalement n'importe quel enfant de parents qui sont sur les réseaux toute la journée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être créatrice de contenu sur les réseaux pour être beaucoup sur les réseaux. Donc,
ah oui.
Voilà, je pense que tous les enfants aujourd'hui sont un peu confrontés à ça, malgré tout.
Ouais.
Donc oui, c'est sûr que si elle peut prendre mon téléphone et aller scroller à des trucs sur les réseaux, elle va le faire, donc il faut faire hyper attention.
Ah oui, elle pique ton téléphone?
Ah oui, celui de sa grand-mère, celui de son père. Maintenant, j'ai changé mon code, mais... Ouais, et puis un jour, elle a fait une grosse connerie sur mon compte aussi.
Ah, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a partagé... On rentrait d'un voyage à La Réunion, je crois, j'étais fatiguée du voyage, je dormais, et elle m'a pris en photo en train de dormir sur mon lit. Elle l'a posté en story avec le nom de la ville où on habite, chose que je ne dis pas forcément sur mes réseaux. Et là, ma mère appelle tout de suite sur mon téléphone, c'est Charlie qui décroche, elle est enfermée dans les toilettes, en pleurs. Ma mère lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Rends le téléphone à ma mère tout de suite. Enfin non, appelle Victoire qui va t'expliquer. Donc ma sœur appelle Tati, elle va t'expliquer comment supprimer la story, parce que là, tu peux pas laisser ça sur le compte de maman. Et elle s'en est voulu, elle m'en a d'ailleurs parlé des semaines et des semaines après. Maman, je repense à ce que j'ai fait, je sais que c'est très grave, j'aurais jamais dû. Donc, pour le coup, voilà, j'ai changé mon code et maintenant, c'est vrai qu'elle me lâche. Je pense que ça l'a marqué un peu de faire ça. J'étais très remontée quand même contre elle. C'était pas la première fois, elle avait déjà posté aussi un truc en photo, une capture d'écran d'un numéro que j'avais fait, elle l'avait posté en photo aussi.
Ouais, des bonnes infos, voilà, bien perso.
Donc ça, j'ai dit plus jamais, quoi. Plus jamais. Donc oui, il faut faire attention, il faut mettre un code bien confidentiel.
Excellent. Et du coup, ton fils, lui, il va être moins exposé.
Ouais, beaucoup moins. Non, Milo, il est plutôt discret. Je le préserve un petit peu.
Ouais.
Je le préserve un petit peu.
Mmh. Mmh. Tu disais que tu avais un autre regard aujourd'hui sur tout ça, justement.
Oui, évidemment. Maintenant, je suis beaucoup plus dans mes recettes. Ça me passionne. Donc, je pense qu'à ça, beaucoup moins à exposer mes enfants, à les montrer. Voilà, si j'ai un petit problème avec eux ou je raconte toujours mes petites galères de tous les jours en tant que maman, ce qui est normal, ça fait partie de mon quotidien. Mais oui, j'aspire vraiment à autre chose pour eux. Je suis moins dans la surexposition, on va dire. Mmh. Voilà. Après, je ne veux pas. Pendant un moment, je les ai cachés pendant un mois et je me suis dit c'est compliqué parce que j'ai pas forcément envie de les cacher complètement. Mais maintenant, c'est vraiment fait avec mesure.
Ouais, t'as trouvé un équilibre.
J'ai trouvé un équilibre, voilà, exactement. Mmh. Et on s'y retrouve beaucoup plus au niveau familial. Ouais. C'était tellement prenant de parler de ma maternité, de faire des photos, tout ça, de les mettre en avant. Même mon mari, à un moment donné, en avait marre. Ce que je peux comprendre avec du recul, parce que j'étais quand même très prenante à ce niveau-là. Mmh. Et oui, maintenant, on est plus cool. Plus cool. Moi, je suis beaucoup plus épanouie maintenant dans la food.
Ouais.
Mes enfants grandissent, en fait, tout simplement. Donc, quand ils sont petits, on a peut-être un peu plus de choses à raconter sur eux. Maintenant, je trouve que ça relève plus de l'intime les concernant.
Ouais. On a envie de montrer nos merveilles.
C'est ça.
À la planète.
C'est ça, exactement.
Et toi, tu avais commencé sur Instagram justement au moment de ta grossesse. Tu te souviens à quel moment tu as commencé à partager ?
J'ai partagé, je crois, dès la naissance de Charlie.
Ok, donc après la grossesse.
Ouais, juste après la grossesse. Ouais, pendant la grossesse, je partageais pas.
Mmh.
J'étais pas encore très réseau à l'époque. Non, c'est vraiment quand j'ai eu Charlie, j'ai commencé à partager. Puis Charlie, j'adorais la looker, lui faire plein de petits looks et tout. Donc je partageais pas mal les petits looks avec Charlie. C'était sympa, ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
Et t'as échangé avec pas mal de mamans, j'imagine, sur tous les sujets de la maternité.
Plus quand j'ai eu Milo. Ça a commencé vraiment quand je suis devenue maman de deux enfants, ouais.
Mmh.
Mmh. Là, je partageais beaucoup, beaucoup sur l'allaitement, beaucoup de questions aussi sur mon accouchement, comment ça s'était passé. J'avais parlé de ma césarienne. Donc évidemment, oui, beaucoup de questions au sujet de la césarienne, de l'allaitement.
Ouais, c'était quoi comme c'est des mamans ou des futures mamans qui se posaient des questions, qui voulaient partager elles aussi ce qu'elles avaient vécu.
Oui, c'était plus des questions sur comment moi je le vivais. Oui, je faisais pas mal de portage aussi à l'époque. Je portais beaucoup Milo
pour
des écharpes de portage. Beaucoup de questions sur le portage aussi. Oui, c'était des questions pour savoir comment je vivais ça. Mais,
Tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de... une si grosse communauté de mamans sur les réseaux, ce besoin d'échanger, ce besoin de partager?
Non, parce qu'à l'époque, franchement, je te dis, je débarquais vraiment dans ce partage de la maternité sur les réseaux. Mais oui, non, j'étais loin d'être la seule à l'époque. C'est sûr, il y avait plein d'autres comptes, mais je ne m'attendais pas du tout à être sollicitée comme ça. Mais c'était génial, c'était génial de pouvoir partager la maternité. En tout cas, à ce moment-là, moi, c'était un vrai échange.
Mmh.
Je prenais beaucoup des expériences des autres et j'essayais d'apporter un maximum du mien aussi. Donc.
Ouais. Mmh. Ouais, maintenant, tu parles beaucoup de... Enfin, tu parles pas, tu montres tes recettes de cuisine.
Voilà, le confinement est arrivé. J'ai commencé à faire des recettes que je partageais uniquement en story à ce moment-là. Je crois que les réels n'existaient même pas encore à ce moment-là.
Ok.
Donc c'était en story, quoi que les réels venaient de commencer. Et puis j'ai une de mes amies qui m'a dit « mais tu devrais commencer à te mettre au réel ». Et j'ai commencé à ce moment-là à me mettre au réel. Et là, oui, c'est vrai que ça a plu tout de suite. Mais ça n'a pas vraiment pris à ce moment-là. C'est vraiment quand j'ai emménagé quand on a déménagé et que j'ai emménagé avec cette belle cuisine lumineuse que j'ai actuellement,
ouais.
Où là, les contenus ont pris parce que je pense qu'il y a une belle lumière et que ça change quand même beaucoup de choses, le côté visuel. Dans une cuisine blanche, tout ça. Je pense que c'est à ce moment-là que mes recettes ont vraiment plu.
Ouais.
Parce que pendant un an, j'en ai fait, quand j'étais dans mon petit appartement, ça plaisait, mais ça prenait pas.
Ouais.
Ça prenait pas, mais je me disais, je vais pas arrêter. Je voyais qu'il y avait des gens à qui ça plaisait quand même. Mais là où ça a vraiment explosé, ouais, c'est il y a à peu près quasi 2 ans.
Et tu fais les montages, les vidéos et tout, elles sont quand même super bien réalisées.
Ouais, je m'occupe de tout ça. C'est vraiment ma passion pour le coup de cuisiner, de faire le montage, de faire la voix-off, tout ça. C'est une partie que je serais incapable de déléguer.
Ah ouais?
Mais à côté de ça, je travaille avec un vidéaste pour tout ce qui est collaboration. Et oui, toutes mes collabs, tout ça, c'est avec lui que je travaille. C'est plus simple. Mmh. Franchement, je pouvais pas faire les deux. C'était trop compliqué. Et ça m'a soulagée vraiment de trouver quelqu'un de très compétent avec qui je m'entends très bien et qui s'occupe de cette partie-là.
Ouais. Et alors, toi, t'as appris où à cuisiner? C'est ta maman, tes parents, ta grand-mère?
Ouais, ça vient de ma grand-mère. C'est vraiment, je pense, une histoire d'éducation. J'ai toujours vu ma maman beaucoup cuisiner pour nous. Dès que j'allais chez mes grands-parents le week-end, pareil, ma grand-mère, mes deux grand-mères cuisinaient aussi beaucoup. Donc oui, et puis, Alexis, ça fait 12 ans que je suis avec lui. Je dis pas que je le tiens par le ventre, mais mes limites, c'est un... Il aime les bonnes choses, c'est un réunionnais, donc il a toujours eu l'habitude de manger des choses très savoureuses. Donc, au début de notre relation, c'est lui qui cuisinait quand même. Puis un jour, il m'a dit « j'en ai marre de te faire du Picard, il est temps que tu t'y mettes ». Mais c'est vrai que je cuisinais pas forcément, mais je pense que j'avais toutes les bases de ma maman quand elle me recevait ou de ma jeunesse. Mais quand je m'y suis mis, ouais, ça a été un déclic, quoi. J'ai plus su m'arrêter, quoi.
Ouais. Mmh. Et tu cuisines avec tes enfants?
Pas mal. Ouais. Charlie est très très, elle demande beaucoup à cuisiner avec moi. Milo aussi de plus en plus, et je crois que c'est ce que je préfère faire avec eux.
Ouais. Mmh. Tu vas leur transmettre justement ce goût pour la cuisine.
Charlie est très gourmand, donc je m'inquiète pas.
Puis Milo, ça fera un petit mec en cuisine.
Ouais. Ouais, il adore ça.
Trop chouette. Et donc là, tu as sorti un livre avec des recettes.
Sur les légumes.
Ouais, sur les légumes. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi pour transmettre aux enfants.
Bah oui, mais c'est un comble parce qu'ils mangent très peu mes recettes.
Ah ouais.
Ouais. Mais je perds pas. Il y a quand même des choses qu'ils mangent, mais ouais, les légumes. J'ai pas cette chance d'avoir des enfants qui se régalent des légumes, malheureusement. J'aurais adoré. Et pourtant, c'est pas faute de leur avoir fait des petits pots quand ils étaient petits maison, de leur avoir toujours mis des légumes sous le nez. Mais ouais, ils sont pas friands de légumes. Ouais. Ça viendra, hein, je le sais. Hein, c'est pas très grave. Mais le principal, c'est que je régale mon mari déjà.
Et comment vous organisez? Parce que donc tu le disais au début, donc ton mari
bientôt futur mari.
Son futur mari était DJ.
Donc il était pas mal à la maison. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'il était très présent quand j'ai eu Milo. Mais on s'est un petit peu croisés professionnellement. Lui, sa carrière se calmait un petit peu forcément avec le Covid. Les clubs étaient fermés, donc plus besoin de DJ à ce moment-là. Et puis moi, le confinement aidant, puisque j'ai fait beaucoup de recettes à ce moment-là et ça a explosé aussi beaucoup à ce moment-là. Donc on s'est un petit peu croisés professionnellement. Il y a eu le confinement, on est resté enfermé pendant, je sais plus, c'était 2 mois, je crois. Ouais. Et là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Lui a fait une petite dépression, je pense, aussi de son côté, ce qui n'a pas aidé. Et notre couple a été vraiment mis à rude épreuve à ce moment-là. Je pense que l'arrivée d'un deuxième aussi, ce n'est pas rien. Et puis voilà, nos carrières aussi, tout ça, ça a été un tout, je pense, qui a fait qu'on a traversé une petite tempête.
Ouais.
Et puis à ce moment-là, on a voulu déménager aussi, parce que ce projet a duré longtemps. Hein. Ça a duré 3 ans, donc on s'est projeté vraiment, on s'est dit là il faut qu'on parte, comme beaucoup je pense de Parisiens pendant le confinement, ils se sont dit il faut qu'on parte. Donc on a commencé un petit peu à prospecter pour trouver autre chose, on a bien galéré puisqu'on était parti un peu sur la Normandie, après sur le sud de la France pour se rapprocher de Brune qui était à Aix-en-Provence. Mais à l'époque elle avait déjà 15 ans, on s'est dit bon, bah, si on se rapproche d'elle, peut-être qu'elle n'aura pas forcément envie de nous voir tout le temps non plus. Et donc on a cherché et finalement je pense que ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est de déménager.
Ouais.
C'est d'avoir plus d'espace, d'avoir un lieu où il avait un endroit spécifique, lui pour travailler, moi pour travailler. Dans notre appartement à Paris, on ne se supportait plus, c'était devenu même physique je pense, d'être comme ça, on était tout le temps ensemble. Alors il y a le confinement, mais il faut savoir qu'avant le confinement, on était déjà tout le temps ensemble. Donc ça ne nous a vraiment pas aidé. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour nous de bouger. Moi, je retrouve aujourd'hui un mari qui est un homme qui est extrêmement épanoui, heureux, alors que c'était pas du tout le cas quand on était encore à Paris. Ouais, ça a été, je pense qu'une grosse tempête, mais aujourd'hui, ça nous a rendu vraiment plus fort. Et au bout de 10 ans de relation, je pense que c'était nécessaire de changer d'environnement. On aspirait aussi à autre chose pour nos enfants. On voulait plus de calme, on voulait un petit extérieur quand même. Plus de calme, voilà, plus de calme, plus d'espace, et qu'on puisse travailler chacun chez soi, puisqu'on est tous les deux travailleurs indépendants. Donc on puisse travailler tous les deux chez soi avec l'espace nécessaire à chacun pour se sentir bien.
Ouais. Arrivé du deuxième a un peu bouleversé, enfin beaucoup, votre équilibre.
Ouais, l'équilibre du coup.
Il a tout remis en...
Ouais, ouais, c'était tout un truc. Mais l'arrivée d'un deuxième déjà n'est pas facile. Son boulot n'était pas facile. Et puis surtout, il est devenu père au foyer en fait.
Et ouais.
C'était un peu la transition de... Alors lui, c'était quelqu'un qui a toujours été... qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Il a toujours travaillé. Voilà, c'est un homme de passion. Il a toujours fait... toujours travaillé dans des milieux qui le passionnaient. Et c'est vrai que de ne plus travailler comme ça du jour au lendemain et de devenir... papa au foyer, puisque moi je commençais à beaucoup travailler, donc j'ai un peu délégué cette partie-là, et ça a été, oui, fallait accepter pour lui de devenir père au foyer, ça a été compliqué. Après, voilà, aujourd'hui c'est un excellent papa, il s'occupe beaucoup, beaucoup de ses enfants, malgré la passion de la photo, donc sur ça j'ai ouais. beaucoup de chance.
Ça a redistribué les cartes.
Exactement.
Ce petit Milo. Et comment tu mets des guillemets, mais te réconcilies quand t'as un baby clash? Comment, alors vous avez déménagé, nouvelle ère.
Mais on continue à se prendre la tête.
Hein. Ouais, ouais, j'imagine. Mais je veux dire, quand on passe de. On est dans la même pièce, limite, on ne se supporte plus, à. Ok, c'est bon, on retrouve un équilibre, on se re-aime comme avant.
Franchement, d'avoir retrouvé du calme, de la sérénité.
Vous avez beaucoup discuté? Pas tant.
On n'est pas trop dans la communication, en tout cas verbale. On s'écrit beaucoup de messages par écrit, vu qu'on a deux tempéraments assez forts. On a beaucoup de mal à échanger de vive voix. Il y en a un qui va se couper la parole ou autre. Donc c'est vrai que quand il y a des clashs, en tout cas, nous, on aime bien s'écrire.
Ouais.
C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Au moins, on sait que l'autre va prendre le temps de lire en intégralité tout ce qu'il a écrit, au lieu de se couper la parole et de pas forcément s'entendre. Oui, non, on a senti tout de suite un bien-être, en fait, quand on est arrivé là-bas. Je pense que ça s'est surtout ressenti sur lui, qui était, comme je t'ai dit, vraiment pas bien. Tout de suite, il est redevenu heureux, quoi. Heureux de s'installer là. Et puis oui, de pouvoir apporter cette qualité de vie à nos enfants, quand même, ça nous a fait du bien.
Ouais. Donc, conseil aux auditrices, envoyez-vous des textos.
Ouais, voilà.
C'est mais je crois que t'es pas la première. Je crois qu'il y avait une invitée qui avait
dans
ce
mon
système
ouais,
aussi.
Mes copines, elles font pas mal ça, parce que bah. C'est dur de s'entendre et de la communication. Je pense que c'est quand même un point qui est très compliqué dans un couple. Je le mettrais plutôt même seuil que la sexualité. Sexualité, communication, c'est quand même au bout de 10 ans de relation. En tout cas, c'est deux choses qui sont quand même compliquées sur lesquelles il faut travailler évidemment, sinon on se perd. Mais oui, nous on communique beaucoup par écrit. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on va pouvoir s'écrire facilement et en général, ça dure pas très longtemps. L'embrouille, on se réconcilie assez vite.
Au moins, il n'y a pas de cri devant les enfants.
Et ça, malheureusement, on ne les a pas épargnés, hein, comme beaucoup de parents, je pense. Oui. J'ai pas honte de le dire. Oui, oui, on s'est beaucoup pris la tête devant les enfants. Hein. Ça, c'est toujours compliqué de se dire il faut choisir les bons moments, il ne faut pas qu'ils soient dans la pièce, mais finalement, ils sont tout le temps là. Donc, et moi, je n'ai jamais vu mes parents crier devant moi.
Ah ouais ?
Jamais, 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 jamais. J'ai vu une discorde de mes parents devant moi. Donc, c'est... malheureusement, on n'a pas su retranscrire ça. Mais ils n'ont pas l'air traumatisés. Voilà, je pense que ça va.
Et alors, ça a changé quoi pour toi, la maternité ?
Bah, tout, hein. Ça change tout. Ça change toute la vie. Ça change même au niveau du couple. Ça change beaucoup de choses, mais c'est que du bonheur. Un peu de fatigue, mais beaucoup de bonheur.
Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman à 1000 à l'heure, une maman débordée, fatiguée, qui fait de son mieux. Voilà, comme... mais bon, maman tout court, en fait, hein, parisienne ou pas, je pense que c'est essayer de faire de son mieux comme on peut, d'accorder du temps aussi à son couple, ce qui est très compliqué quand on vient d'être maman ou qu'on vient d'être maman d'un deuxième. Nous, ça a été compliqué aussi à ce moment-là. Donc, ouais, prendre du temps pour soi et faire de son mieux comme on peut.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris ?
Je dirais la fête foraine, puisque je crois que mes enfants aiment vraiment y aller tout le temps. Quand on était à Paris, c'est tout le temps on va à la fête foraine. Donc c'est la fête foraine des Tuileries. Ouais, on va tout le temps. Dès qu'elle est ouverte, on peut y aller 4 fois en 2 semaines.
On a dû se croiser là-bas.
C'est sûr.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Projet rien pour moi, c'était mon livre. pour le coup, j'ai été en introspection avec moi-même sur tout ce projet.
Ouais.
Et projet en famille, plus de voyages. Là, on a vraiment beaucoup s'autoriser à voyager un peu plus avec les enfants. Ouais. Alors, pas forcément loin, hein, parce que rien qu'en France, je pense qu'on a énormément de belles choses à voir. On voyage beaucoup à La Réunion, on y va tous les ans parce que j'ai ma belle famille là-bas. Donc les grands-parents des enfants, on y va tous les ans, mais on aimerait bien faire plus de choses, même en France. Ouais.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi, c'était super.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.